Nous avons lu tout à l'heure le 12e chapitre du livre des Actes, un chapitre un petit peu de transition, nous l'avons dit dans ce livre. Dernier focus sur ce qui se passe à Jérusalem. Et malheureusement ici, sur le rejet, on va dire global, de l'Évangile. Malgré des hommes et des femmes qui individuellement reçoivent la parole de Dieu, accueillent la parole de Dieu dans leur cœur et voient leur existence transformée. Alors, au travers de ce récit que nous avons déjà pas mal résumé, où Pierre est emprisonné et où un ange va venir le délivrer, nous voulons ce matin nous arrêter sur plusieurs choses. La première, sur quel principe est celui de Dieu concernant la délivrance. Le second, sur la prière. Et le troisième, sur l'action des anges. Alors, la première question, c'est, à partir d'un chapitre comme celui-ci, un chrétien doit-il crier victoire et chanter victoire en disant « Le Seigneur me délivrera toujours, il enverra toujours un ange ou autre chose pour me délivrer de mes ennemis, de mes soucis, de mes maladies, bref, de tout ce qui pose problème dans notre vie, qui est douloureux, qui nous fait souffrir, qui nous attriste. L'injustice. Parce qu'on a envie, avec un chapitre comme ça, de dire « Regardez, pas de souci, tu peux être dans une prison, eh ben le Seigneur, il va te délivrer. » Il peut le faire et c'est merveilleux. Amen. Seulement, le chapitre, il commence quand même sur la mise à mort d'un apôtre, hein. Faut pas l'oublier. Dans ce chapitre, nous avons le disciple Jacques, frère de Jean. C'est pour ne pas le confondre avec le Jacques dont il est mention à la fin du chapitre et qui est le frère de Jésus, auteur de l'épître de Jacques, qui n'est pas l'un des 12 disciples. Il y avait deux Jacques. Voilà. Et on se dit, mais attends, mais le disciple Jacques, Pourquoi le Seigneur n'a pas envoyé un ange pour lui? Pourquoi a-t-il été décapité? Et pour Pierre, alors Pierre tranquille, il y a un ange, il arrive, les fers tombent tout seuls, les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules, les gardes, alors ils dorment du sommeil, pas du juste, mais d'un sommeil bien lourd. Mais par contre, Jacques, il a fini la tête coupée. Et ça, c'est une première chose pour nous à apprendre de ce chapitre, c'est que le Seigneur est absolument tout puissant pour délivrer quand il veut, mais il ne le fera pas toujours. Et nous n'allons pas lui forcer la main, nous nous mettons en prière et nous demandons au Seigneur en lui disant comme Jésus au jardin de Gethsémané, toutefois que ta volonté soit faite, non pas ma volonté mais la tienne. Et ça, c'est pas évident, parce que notre volonté, c'est de sortir de prison. Notre volonté, c'est de sortir de la maladie. Notre volonté, c'est que nos problèmes avec les voisins ou les collègues totalement injustes et qui nous font vivre entre guillemets l'enfer, notre volonté, c'est que ça s'arrête, c'est qu'on soit délivré. Et gloire à Dieu, le Seigneur va permettre des tas de situations dans notre existence où nous allons être délivrés, où le Seigneur va solutionner dans le sens que notre cœur naturel aspire. Mais le Seigneur va aussi nous apprendre à accepter sa volonté lorsque sa volonté ne va pas dans le sens de notre désir naturel et légitime. Et nous n'avons pas de réponse d'ailleurs. Ici, dans ce chapitre, nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis que Jacques meure. Et loin de nous de penser qu'il l'avait bien mérité, que c'était une punition. D'accord ? Hein, c'est pas, tiens, Dieu permet, ah ben il va, voilà, il te laisse ta maladie, il te laisse ton truc. Ça, c'est parce que, tu dois être puni pour un truc, hein, sinon tu serais guéri. Ça, c'était les amis de Job qui parlaient comme ça. Et c'était faux. Et le Seigneur l'a montré. Ça n'est pas mathématique comme ça. Ça peut arriver que le Seigneur châtie. Ça arrive. Mais ça n'est pas une logique mathématique. Hop, tu n'es pas délivré. C'est parce que tu manquais de foi. C'est parce que tu manquais de prière. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans ta vie. Non. Pas forcément. Et on peut se demander, est-ce que l'Église qui a tant prié pour Pierre avait prié pour Jacques? Moi, je me pose la question. Je crois que la réponse est oui. Et ce qui me fait penser que la réponse est oui, c'est que finalement, quand Pierre est délivré, il n'y croit pas. Leur première réaction, quand Pierre vient frapper à la porte, en fait, bien qu'il soit en train de prier pour demander au Seigneur sa délivrance, lorsque la délivrance arrive et que Rode, la servante, dit « Il y a Pierre derrière la porte, ah, tu es folle, n'importe quoi. » Puis elle insiste, alors ils se disent « Superstition juive, ça doit être son ange, c'est-à-dire, ça y est, il doit être mort. » Et donc il y a ce sorte de fantôme, vous voyez, qui est là, qui a son apparence, et qui erre dans les rues et qui vient frapper à la porte. Et certainement, avait-il prié pour Jacques, et Jacques avait été décapité. Ça ne les empêche pas de continuer de persévérer dans la prière, mais la délivrance du Seigneur, peut-être là, peut-être il n'y croit plus vraiment, parce que pour Jacques, ça n'a pas été le cas. Et peut-être ont-ils du mal à discerner le sens de la volonté de Dieu et on ne peut pas leur jeter la pierre. Parce que nous ne savons pas pourquoi Dieu, pour l'un, eh bien, a donné une issue humainement tragique, mais spirituellement victorieuse. Nous savons que notre cher frère, l'apôtre, le disciple Jacques, eh bien, a aussitôt été dans la gloire avec Christ et qui recevra la couronne de ceux qui ont été mis à mort pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quand même, on l'aurait bien vu rester un petit peu plus longtemps sur terre et son frère Jean, parce que Jean est son frère, et le disciple qui va, le seul, qui ne va pas terminer en martyr et qui va vivre extrêmement vieux parce que le Seigneur avait dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il reste, et il va vivre extrêmement longtemps. Et nous avons là deux frères. Et ça nous, pour nous, c'est aussi parlant. On se dit, mais pourquoi dans une famille, il y a un enfant, bah, on a l'impression, voilà, il n'a pas eu de chance, il a telle maladie, il lui arrive ça. Et puis tel autre, c'est tout le contraire. Pourquoi il y en a un, il fait des études brillantes, tout lui réussit, et l'autre, l'école, c'est compliqué. Pourquoi ? Nous avons ici deux frères. Le premier des disciples qui va mourir, et le second est celui qui va vivre le plus longtemps. Et comme disait Jésus à Pierre, parce que l'apôtre Pierre, quand Jésus avait parlé à Pierre, justement, en lui disant, quand tu seras devenu vieux, tu ne feras pas ce que tu voudras, tu n'iras pas où tu veux, pour lui indiquer de quelle mort il allait glorifier le Seigneur. Et Pierre, il voit Jean, et il dit, et Seigneur, lui, que lui arrivera-t-il, lui ? Et le Seigneur lui a dit,
que t'importe ? Que t'importe ?
Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et c'est ce que fait Pierre. Et nous n'avons pas toutes les réponses. Parfois, nous passons des années de notre existence à exiger du Seigneur des réponses. Pourquoi, Seigneur, tu as permis ceci ? Pourquoi tu as permis cela ? Pourquoi à moi et pas à lui ? Pourquoi à quelqu'un dans ma famille et pas à l'autre ? Et c'est pas juste. Et nous passons des années, et nous perdons des années, à exiger du Seigneur des réponses qu'il ne nous donnera pas. Parfois, il nous donne les réponses quand on arrête de les lui demander. Quand on accepte, tout simplement, sa souveraineté, mais pas une souveraineté froide, une souveraineté jointe à son amour. Et ça, on dira, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour l'apôtre Jacques, alors ? Le Seigneur veut que notre cœur rencontre le sien, lui fasse confiance, sans tout comprendre, conscient que le Seigneur va permettre aussi des épreuves, va permettre de la douleur, va permettre des non-délivrances à vue humaine. Mais il nous dit, continue de mettre ta main dans la mienne, laisse ta main dans la mienne et suis-moi, je t'aime. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras plus tard. Peut-être nous le comprendrons d'une rang en notre vie terrestre et parfois des années plus tard, par des circonstances ou par le recul du temps, nous comprenons l'œuvre de Dieu. Nous disons, Ah, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, mais c'est vrai que maintenant, avec 15 ans de différence, je me rends compte que... Seigneur sait. Puis peut-être nous ne le saurons pas, mais nous le saurons là-haut. Et là-haut, nous connaîtrons. Là-haut, nous verrons l'envers du décor. Et il sera pour la gloire de Dieu. Alors, ce premier élément, dans ce chapitre, ne nous basons pas sur ce chapitre pour crier victoire à tout va, en affirmant des choses qu'on ne peut affirmer. Si on prie, le Seigneur te guérira. Si on prie, tu trouveras du travail la semaine prochaine. Si on prie, peut-être tu trouveras du travail avant la semaine prochaine, si on prie. Oui, absolument. Mais, ça n'est pas une promesse inconditionnelle que Dieu fait. Et dans ce chapitre, nous voyons l'Église en prière et le Seigneur qui délivre puissamment et qui répond favorablement à la prière pour l'apôtre Pierre. Mais pour l'apôtre Jacques, il n'en a pas été ainsi. Et les deux sont dans le plan du Seigneur et nous invitent à lui faire confiance dans les deux circonstances. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous voyons dans ce chapitre, c'est la persévérance. Alors là, nous avons deux persévérances en parallèle. La persévérance à bien faire et la persévérance à mal faire. La persévérance à mal faire, nous la voyons chez Hérode Agrippa. Ah, Hérode, il commence à maltraiter quelques membres de l'Église et il voit que politiquement, c'est pas mal du tout. Il traverse une phase un petit peu où ses relations avec Rome ont besoin d'être consolidées. Et la Palestine, c'est un territoire dont personne ne veut parce que c'est une poudrière. Mais Hérode Agrippa, qui est juif, et qui sera d'ailleurs le dernier roi des juifs pendant 3 ans, gouverne la Palestine et il a besoin quelque part de l'appui des décideurs locaux, hein, le Sanhédrin, ce conseil et tribunal à la fois, cette instance de gouvernance qui est parallèle à celle de Rome, puisque Rome laissait des instances de gouvernance parallèles à la sienne. Et donc il a besoin de leur appui. Et il voit que cette nouvelle voie, la voie en Jésus-Christ, où ça fâche les détenteurs du pouvoir ici en Judée. Alors pour se faire des amis, parce qu'en fait c'est pas qu'ils n'aimaient pas les chrétiens, c'était une stratégie politique. Pour se faire des amis, eh bien il va commencer à maltraiter quelques membres de l'Église. Il les maltraite. Il passe un cran supérieur, il fait mourir un disciple de Jésus. Alors là, il touche à quelque chose de très symbolique. C'était l'un des 12. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il se dit, bon, puisqu'on est dans la série des 12, je demande Jacques, je demande Pierre. Et nous voyons sa persévérance. Il le saisit, il le met en prison, et là, il se dit, ils m'ont déjà échappé une fois. Quelques chapitres en arrière, les disciples avaient déjà été emprisonnés, un ange est venu, les a délivrés, ils se sont retrouvés le lendemain dans le temple. Il dit, ça ne va pas m'arriver une deuxième fois, je ne sais pas comment ils ont fait la première, mal gardé. Là, je vais mettre 4 escouade de 4 soldats chacune. Ils vont se relayer toutes les 6 heures. Et puis pour être sûr, là, tiens, on va lui faire. On va lui mettre des chaînes. Et puis la chaîne, elle sera reliée à un soldat. Et puis on ne sait jamais. Donc on en met une deuxième de l'autre côté et elle est attachée à un deuxième soldat. Comme ça, Pierre, il est enchaîné à 2 soldats romains. Et puis il y en a d'autres qui gardent la porte. Et puis. Il y a la première garde, la deuxième garde, etc. Toutes les précautions sont prises. La persévérance. Mais la persévérance à mal faire. Persévérance à mal faire dans le cœur d'un roi qui connaissait très bien la loi de Moïse, qui connaissait très bien la Torah. La persévérance à mal faire du dernier roi des Juifs qui aurait dû chercher à glorifier Dieu dans sa vie, qui aurait dû chercher à connaître Dieu et qui fait exactement le contraire en suivant, je dirais, les coutumes païennes et romaines. On sait que les empereurs se faisaient adorer comme des dieux, n'est-ce pas ? L'empereur était un dieu. Il avait un culte qui lui était dédié. Il y avait des prêtres qui officiaient pour lui rendre culte en tant que dieu sur terre. C'était l'empereur romain. Et bien des rois faisaient un petit peu la même chose. Et nous avons notre Hérode Agrippa qui continue cette persévérance à mal faire et qui, même s'il vient de se prendre un revers, parce que malgré toutes les précautions prises, l'apôtre Pierre a disparu. Au petit matin, il n'est plus là. Alors notre Hérode Agrippa, dépité, laisse le territoire de Jérusalem, il retourne à Césarée, il va traiter avec d'autres peuples. Tiens, c'est des Tyriens et des Sidoniens, il est un peu en froid, il va se dire « Oh, je viens d'avoir une défaite là à Jérusalem, politique. Il me faut absolument avoir un succès politique ailleurs. » Allez, des Tyriens et des Sidoniens, on va s'en occuper. Et l'orgueil est là. Et alors, pendant qu'il fait son show, vêtu de ses vêtements royaux, une scène qui est décrite par un historien qui s'appelle Joseph, ben finalement, la foule dit quelque chose de décisif. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Que ce soit l'empereur romain à qui l'on dise ça, c'est une chose. Mais ici, c'est le dernier roi des Juifs à qui l'on adresse ces mots-là. Et ce n'est pas rien. Parce que Hérode Agrippa, contrairement à ses prédécesseurs, lui avait réellement du sang juif et se targuait d'être vraiment légitime sur le trône en disant « Oh, pour une fois, vous avez un vrai juif à votre tête. » Mis par Rome, certes, mais un vrai juif. Et il accueille cet hommage où on lui dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Se prendre pour Dieu, accepter que des personnes, même par flatterie, nous disent « Ah, tu es un dieu !» Et ça nous fait penser, n'est-ce pas, à Satan qui cherche l'hommage, qui veut être Dieu à la place de Dieu, la persévérance à mal faire. Et là, le Seigneur arrête. Le Seigneur arrête. Et nous voyons que le Seigneur peut laisser les gens aller très loin dans la persévérance à mal faire. Il y a la persécution, il y a la mise à mort de Jacques, mais le Seigneur contrôle. Et à un moment, il dit, bah, cette persévérance à mal faire, je fixe la limite là. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Alors faisons confiance au Seigneur. Lorsqu'autour de nous, nous voyons la persévérance à mal faire, à mal agir, nous savons que le Seigneur a le doigt sur le curseur et que quand il le jugera opportun, il mettra un terme et qu'il est puissant pour mettre un terme. Et puis, parallèlement, nous avons la persévérance à bien faire. Nous avons l'Église qui, au verset 5, ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Peut-être ils ont passé toute la nuit en prière. Cette dernière nuit, le lendemain, Pierre devait être exécuté. L'Église, certainement à différents endroits, parce que nous voyons ici une maison, au verset 12, la maison de Marie, qui accueillait des frères, des sœurs, et qui priait. Mais tout le monde n'était pas là, puisque Pierre leur demandera de porter le message de sa délivrance, entre autres à Jacques, le frère du Seigneur, et aux autres frères. L'Église, en différents lieux, dans les maisons, était en prière. Elle ne cessait d'adresser des prières. Et ça, c'est ce à quoi nous sommes invités. Jésus a donné cette parabole de cette veuve qui cassait la tête du juge unique, en lui adressant tout le temps la même requête, tout le temps la même requête. Et peut-être que là, pendant toute la nuit, on peut se dire, oh, c'est toujours la même prière, il demande la délivrance de Pierre. Oui. Qu'importe. La veuve ne cessait de demander la même chose au juge. Et Jésus voulait montrer par là que si même un juge unique finit par entendre, bien sûr le Seigneur entend. Et il nous invite à intercéder et à persévérer dans la prière. Que nous sachions ou pas l'issue, on reparle de Jacques, on reparle de Pierre, l'issue n'est pas la même. Qu'importe, persévérons dans la prière, demandons au Seigneur en nous soumettant à sa volonté. Et là, c'est un vrai défi pour l'Église locale. Est-ce que nous nous mettons à genoux? Est-ce que nous combattons dans la prière? Est-ce que nous intercédons? Est-ce que lorsqu'il y a une situation toute particulière, nous avons ce réflexe de nous mobiliser? Ah, c'est pas le mardi à 15h, c'est pas non plus le vendredi à 18h, ça c'est nos heures fixes de prière, on se retrouve, on se met d'accord pour prier régulièrement. Oui, mais il y a des circonstances où, qu'importe le jour, qu'importe l'horaire, on peut intercéder pour un événement spécial, se retrouver et prier. Et nous sommes appelés à vivre cela, davantage que ce que nous faisons. La persévérance de l'Église de Jérusalem est un modèle pour notre Église ici à Arles. Troisième chose que ce chapitre nous ouvre, c'est l'action des anges. Voilà un chapitre, je dirais, assez épique, où l'action des anges nous est offerte, là, décrite. On a une situation extraordinaire. On se régale de lire ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ce chapitre, l'action d'un ange se porte autant sur la délivrance de Pierre que sur la mort du roi Hérode Agrippa. C'est assez curieux que le verset 23 nous dise « Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. » Nous ne savons pas exactement comment il y a cette double action à la fois de la maladie ou de l'empoisonnement, on ne sait pas bien, il y en a qui pensent que c'était l'empoisonnement, mais là c'est les vers, et puis à la fois l'ange qui dit « Hop, c'est maintenant ». Mais la Bible nous l'affirme. Il y a l'action d'un ange ici pour mettre un terme à la persévérance à mal faire du roi Hérode Agrippa. Il y a une action pour délivrer Pierre. Alors c'est formidable ce récit. une prison fortement gardée, avec plusieurs portes à passer. Et puis l'ange qui survint. Il survint. Voilà, il est là, c'est comme ça. Il passe au travers, il est là. Et quand il est là, il y a la lumière qui brille. Alors il réveille Pierre, il le secoue un peu, il le frappe au côté, là, en disant hey, vas-y, lève-toi. Il parle. C'est pas juste un fantôme, parce que je sais pas comment un fantôme fait pour tapoter quelqu'un. Oh, oh, réveille-toi là, mon gars, là, oh. Hein? Non, non. Il est là, bien physiquement. Puis il prend soin de lui, parce que Pierre est à moitié endormi quand même là. D'ailleurs, il croit qu'il est en train de faire un rêve. Il croit avoir une vision. Alors il lui dit, bon, mets ta ceinture et tes sandales, tu vas pas. Hein? Allez, on va mettre les sandales, on va quand même pas aller dans la rue pieds nus. Allez. Et puis écoute, ton manteau, tu vas pas le laisser, dommage. Je ne sais pas combien coûtaient les manteaux, mais ça nous fait souvenir de l'apôtre Paul qui dit « Apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, et puis les parchemins, etc. » Bon, voilà. On ne va pas laisser le manteau. D'ailleurs, il doit faire frais dehors. Tu mets tes chaussures, tu mets tes manteaux, ton manteau, et puis on y va. Et on le voit, cet ange qui accompagne Pierre, qui le guide, qui prend soin de lui. Et puis finalement, quand sa mission est terminée, la mission qu'il a reçue du Seigneur concernant Pierre s'achève dans une ruelle où Pierre est en sécurité, et bien aussitôt il disparaît. Et là, Pierre est laissé à lui-même, il revient à lui-même, et là, la guidance miraculeuse du Seigneur s'interrompt et Pierre doit réfléchir et doit reprendre des décisions par lui-même. C'est pour ça qu'au verset 12, il nous dit « après avoir réfléchi hein, ». Voilà. Faut pas toujours s'attendre à ce que le Seigneur continue de nous dire, de tout nous dire. Tu feras ceci, tu feras cela, tu iras là. Il y a un temps pour tout. Il y a des fois, le Seigneur va guider d'une manière toute spéciale. Puis, il y a les moments où tout simplement, il nous dit, bon, maintenant tu vas réfléchir. Hein? Puis il réfléchit, il se dit, bon, là-bas chez Marie, dans la maison, il doit y avoir du monde, je suis certain, c'est un lieu de rendez-vous classique, et je vais y aller, comme ça ils pourront donner la nouvelle à tout le monde. Mais je ne vais pas y rester, parce que c'est quand même un endroit, très certainement, qu'on connaît. C'est peut-être la première porte à laquelle on va aller frapper. Donc il n'est même pas rentré, il a donné le message et il est parti dans un autre lieu et on ignore. Alors, l'action des anges. Est-ce que le Seigneur agit aujourd'hui avec des anges? Je vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Il l'a fait dans la Genèse, il le fait dans les livres bibliques, il le fait encore dans l'Apocalypse. Qui sont les anges? Hébreux, au chapitre 1, nous donne peut-être le verset le plus utile pour nous, pour comprendre quel est le rôle que Dieu donne aux anges. Hébreux chapitre 1 verset 14. C'est bien sûr dans un contexte un peu particulier où l'auteur de l'épître aux Hébreux montre que Jésus est supérieur aux anges. Il n'est pas un ange parmi d'autres. Il n'est pas non plus l'ange par excellence. Non, Christ est plus que ça. Il est Dieu. Et dans ce contexte, pour, où l'auteur montre que Christ est supérieur et d'autant plus supérieur aux anges, au verset 14, en parlant des anges, parce que le verset 13 dit « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite ?» Verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» C'est beau, hein ? Des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de tous ceux qui un jour donneront leur vie à Jésus-Christ. Et puis en faveur de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui vont hériter du salut, parce que notre salut aujourd'hui n'est qu'en espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés, dira l'apôtre Paul. Et nous allons hériter le salut. Et voilà comment nous apprenons que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère, une mission, un travail au bénéfice, eh bien, de ceux qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, ou qui, un jour, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais le Seigneur les connaît par avance. Et il exerce une action en leur faveur. Il a son regard sur eux dans leur histoire, dans leur parcours, en disant « Un jour, il va prendre une décision pour moi, je connais la date, et je vais agir. Il va y avoir un ministère que les anges vont exercer dans sa vie. » Alors, ici, nous avons une mission qui est celle de faire sortir Pierre de prison. Ça peut arriver encore aujourd'hui, pourquoi pas. Il y a des interventions miraculeuses que le Seigneur permet et où, dans l'ombre, invisible ou pas, des anges sont intervenus. Alors nous voyons deux types de façons dans la parole d'agir des anges. Ils peuvent agir, je dirais, dans l'ombre, invisible. Mais ils peuvent aussi apparaître. Alors, ils n'apparaissent pas avec leurs ailes. Hein. Des fois, on se fait des représentations comme ça, ils ont leurs ailes, etc., parce que certaines descriptions prophétiques, effectivement, nous parlent des chérubins dont les ailes le couvrent. Mais à chaque fois que dans la Bible nous voyons des anges apparaître, c'est sous forme humaine. On pense à Abraham, juste avant que, quand on vient lui dire qu'il aura un fils, hein, il aura une postérité, et juste avant que Dieu ne juge Sodome et Gomorre. Abraham, il voit ces étrangers qui arrivent, il sent bien qu'il y a un truc de pas pareil que d'habitude, mais enfin, il les a pas vus en disant « Hop, eux, ça c'est des anges. » C'est pas forcément. Et peut-être dans notre vie, avons-nous croisé à un moment quelqu'un qui était là, je sais pas, au bon moment, au bon endroit peut-être. Or peut-être c'était un être humain, tout simplement que le Seigneur a envoyé au bon moment, au bon endroit pour nous. Mais peut-être que c'était un ange. D'ailleurs, on va dire, la suite de l'Épître aux Hébreux nous le dit, hein. Hébreux 13, c'est un chapitre où l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous encourager à l'amour fraternel, aux soins, au fait de s'accueillir les uns les autres et l'hospitalité. Et surtout à l'époque, lorsque les auberges étaient un peu dangereuses, on rentrait dans l'auberge, on ne savait pas si on allait en ressortir avec sa bourse ni même sa vie. Hein? et où il valait mieux être accueilli chez l'habitant. Seulement, être accueilli chez l'habitant, si vous avez accueilli des gens chez vous, vous savez que c'est des contraintes, vous savez que c'est pas toujours évident. C'est un peu saoulant des fois. Et Hébreux 13 nous dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors, s'ils étaient venus avec leurs petites ailes, on l'aurait su, hein. Non ? Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oui, sans le savoir. Le Seigneur utilise ces êtres spirituels qu'il a créés avant de créer la terre. Donc là, nous reportons, hein, comment Dieu agit, comment est-ce qu'il procède. Oui, Dieu a d'abord créé des êtres spirituels. Il existe des créatures qui sont esprits, qui ont accès à la présence de Dieu et qui peuvent, j'ai envie de dire, naviguer entre le monde spirituel et le monde matériel qui est le nôtre. Nous, Dieu nous a créés profondément inscrits dans la matière. Dieu a créé la matière en créant le monde. Mais Dieu lui-même n'est pas matière et les anges ne sont pas matière. Mais quand Dieu crée la matière, il crée toute une sphère nouvelle qui est extraordinaire, qui est merveilleuse. Hein, une fleur, une pierre, un coucher de soleil. Extraordinaire ce que Dieu a créé dans la matière, avec la matière. Ça, c'est important de le dire contre certaines philosophies d'autrefois, mais parfois aujourd'hui aussi, qui méprisent la matière. Dieu vit que cela était bon. Et voilà que ces êtres spirituels, eh bien Dieu va leur donner un ministère dans ce monde matériel qui est le nôtre. Et ils vont pouvoir faire ce va-et-vient entre un monde de la matière et un monde de non-matière. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors nous savons que les anges sont différents entre eux, avec des puissances manifestement différentes. Et d'ailleurs, peut-être l'un des plus beaux et des plus puissants, c'est rebellé. Ce Lucifer, cet astre brillant, qui, tout comme Hérode Agrippa, a voulu devenir son propre Dieu, être indépendant de Dieu, et a été jeté sur la terre. Et nous avons depuis lors, dans le monde angélique, les anges qui ont suivi Satan dans leur rébellion, et ceux qui sont restés saints et attachés au Seigneur. Et ce sont ceux-là que nous voyons intervenir dans l'histoire humaine à différents moments. Et qu'en coulisses, le Seigneur nous affirme qu'aujourd'hui encore, ils agissent. Moi, je trouve ça merveilleux, parce que des fois, on est là dans notre train-train quotidien, etc. Bien sûr, il y a le Seigneur, on prie, mais on ne se rend pas compte, parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais le Seigneur, par contre, nous en parle. On ne se rend pas compte qu'en fait, dans notre quotidien, le Seigneur, il agit, et il agit aussi à travers ses messagers, à travers ses ministres spirituels, ses esprits, au service de Dieu, au bénéfice de ceux qui doivent hériter du salut. Et dans ma semaine, dans mon année, il y Il y a peut-être un ange qui a œuvré, qui a agi dans les coulisses. Et combien la terre est proche du ciel, hein? On dit, wow, ah, il se passe tout ça. Oui, mes frères et sœurs, il se passe tout ça. Alors, le Seigneur ne nous demande pas de commencer à détecter les anges. Hein? Alors, je vais m'acheter un détecteur de... Non. Le but n'est pas de commencer à nous mettre dans une sorte de, dira la parole, de culte des anges. Une espèce de fascination, d'adoration, d'attirance. Et d'ailleurs, lorsque certains anges paraissent, le réflexe des êtres humains, c'est de se prosterner, de se mettre à genoux, et les saints anges de Dieu disent « Non !» comme en Apocalypse, « Car je suis ton compagnon de service. Adore Dieu !» Ne te trompe pas. Adore Dieu. Et sans doute, si le Seigneur ne nous montre pas toujours les coulisses, c'est parce qu'il connaît peut-être notre faiblesse et notre proportion à nous tourner vers les choses, vous savez, un peu croustillantes, miraculeuses qui sont là. Et il sait que ça peut vite voler la place du Seigneur lui-même. Mais combien il est bon de savoir que ça existe pour de vrai, qu'aujourd'hui les anges agissent dans la vie de chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous doit hériter le salut. Nous sommes approchés de Jésus-Christ par la foi. Alors nous savons que des anges exercent un ministère en notre faveur. Et peut-être à l'occasion, nous en croiserons, hein, nous en logerons. Hein. Qui sait ? Le Seigneur veut nous rendre alerte en disant « Sois toujours prêt. Sois toujours prêt à servir. Sois toujours prêt à accueillir. » Tu ne sais pas à côté de qui tu pourrais passer, à côté de quelle bénédiction tu pourrais passer. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il agit, merci Seigneur parce qu'il est complètement, entièrement capable de délivrer, et que s'il le faut, il enverra des anges, comme il l'a fait pour Pierre. Les chaînes peuvent tomber, les portes peuvent s'ouvrir d'elles-mêmes. Dieu n'agira pas toujours comme ça. Mais si c'est son plan, il le fera. Amen. Alors de notre côté, soyons aussi prêts à accepter l'autre facette de son plan lorsque c'est pas Pierre, mais lorsque c'est Jacques. Continuons là aussi de faire confiance au Seigneur. Et souvenons-nous que dans les moments difficiles, comme à Gethsémané, qui c'est qui est venu à Gethsémané? Un ange. Un ange est venu pour fortifier Jésus. Hein, on voit Jésus à Gethsémané qui avait une angoisse, dont la sueur devenait comme des grumeaux de sang. Et qui c'est qui apparaît? Un ange vint pour le fortifier. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de ce beau chapitre qui nous ouvre les coulisses du monde spirituel. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de nous et tu mets en œuvre même tes ministres qui agissent en notre faveur. À toi soit la gloire, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons réaliser qu'aucune situation n'est trop compliquée pour toi, trop difficile. Malgré la persévérance du mal, parfois, comme celle d'Hérode Agrippa. Tu es tout puissant. Alors nous voulons te faire confiance. et te faire confiance aussi lorsque ton plan ne passe pas par la délivrance, ne passe pas par un envoi d'ange, mais qu'elle permet simplement, Seigneur, à l'épreuve d'être. Seigneur, que notre foi ne vacille pas dans ces moments-là, mais qu'elle cherche, comme Paul l'a fait, à dire ma grâce, à savoir que ta grâce nous suffit, et à le vivre pleinement, et à expérimenter que dans ces moments-là, Seigneur, nous pouvons être forts alors que nous sommes faibles. Merci pour ton amour. Aide-nous à persévérer, Seigneur, dans l'amour. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans la prière, à porter les fardeaux, à intercéder. Nous ne savons pas, Seigneur, quelle issue tu donneras à la prière, mais ça n'est pas notre problème, Seigneur. Nous, notre responsabilité, Seigneur, c'est de prier et de persévérer et de ne cesser de prier, que nous puissions prendre ce ministère à cœur. Au nom de Jésus, amen.